Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast La Parole aux orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice, et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui, je reçois Robert. Bonjour Robert.
Bonjour Sarah.
Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices ?
Oui, avec plaisir, oui. Donc, je m'appelle Robert, Robert de Guardia. Je suis un orthophoniste de longue date, puisque j'ai passé mon diplôme en 1977.
Ok.
Donc, ça va bientôt faire 50 ans, dans 3 ans. Voilà. Voilà, je suis un ortho un peu particulier parce que, en fait, pendant mes études d'orthophonie, j'ai découvert que j'étais dyslexique.
Ah, d'accord.
Et voilà. Donc, en fait, je ne savais pas que je l'étais parce que c'était à l'époque, c'était un terme qu'on ne connaissait pas.
D'accord.
Ça se repérait pas facilement dans les cursus scolaires. Et donc, je n'avais pas été dépisté et du coup, je ne le savais pas.
Wow.
Donc, c'était un peu compliqué. Mais en même temps, comme je n'avais pas vécu d'autres vies, ben, j'avais pas de comparaison possible.
Oui.
Et du coup, c'était assez rigolo de me retrouver en train de faire des études d'orthophonie. C'est un peu comme quelqu'un qui n'aurait pas de jambes, mais qui voudrait devenir coureur. Voilà, enfin, apprendre à courir.
Incroyable.
Et il y avait comme une espèce de paradoxe quelque part. Et voilà. Et bien sûr, ça m'a joué pas mal de tours, mais ça m'a aussi appris beaucoup de choses. Parce qu'on apprend de ses faiblesses et de ses difficultés. Voilà. Et c'est peut-être, je pense, aussi la raison pour laquelle, au fil du temps, j'ai cherché une façon de pratiquer mon métier qui ne soit pas académique, qui soit différente, en fait, de celle qu'on m'avait enseignée ou qu'on attendait de moi. Voilà. À un moment donné, je me suis demandé si je changeais de métier.
Ah, oui.
Ou si je trouvais le moyen de rester dans ce métier, mais de le pratiquer autrement. Voilà, et c'est comme ça que petit à petit, en fait, l'idée de ce qu'on appelle aujourd'hui la RPP, la relaxation pneumophonique, m'est venue et que j'ai pu l'élaborer petit à petit et la mettre, l'affiner, on va dire. Voilà, et aujourd'hui, elle existe et c'est moi qui la transmets maintenant aux autres.
Génial.
Voilà, voilà.
Mais... Si ça te va, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu aux différentes étapes de ton parcours, parce que déjà,
oui.
Mais apprendre qu'on est dyslexique pendant les études d'orthophonie, mais c'est incroyable. Et
oui.
Comment tu t'en rends compte à ce moment-là?
Ben, tout simplement en lisant les cours.
Oui.
Je lis donc en fait ce qu'est la dyslexie et ce qu'est le dyslexique.
Oui.
Et je me reconnais, je me dis, mais c'est moi ça.
Ah.
Ça, c'est complètement moi. Et alors là, je tombe vraiment dénu et je me dis, mais c'est pas possible. Comment c'est incroyable que, en plus, que je choisisse cette voie-là.
Oui.
Donc, je vais me retrouver en face de personnes qui sont dans la même disposition que moi, en fait, et dans les mêmes difficultés que moi. Voilà.
Ah, c'est cool. Et ça t'avait jamais posé de soucis avant d'entrer dans les études d'orthophonie? Tu t'étais jamais dit que tu avais peut-être quelques difficultés supplémentaires?
Alors, je crois que je ne me l'étais jamais dit.
Oui.
Parce que j'ai toujours fait avec.
Oui.
Et que, bon, on n'a pas trop d'éléments de comparaison. Hein. On ne connaît que sa vie à soi.
Oui.
Voilà. Bien sûr que j'ai eu pas mal de difficultés. Ben, j'ai eu du mal à apprendre à lire. C'est dès le départ que ça commence. Et voilà. Et toute ma vie, en fait, compte, la lecture a été compliquée pour moi. Ça l'est toujours aujourd'hui.
D'accord.
Voilà. Par contre, l'écriture, beaucoup moins. En fait, c'est le décodage qui est compliqué pour moi. L'encodage est les moins, on va dire.
Oui.
Les moins. En tout cas, l'encodage écrit ne me pose pas de problème.
Oui.
Voilà.
Et alors, quand tu te rends compte de ça pendant tes études, est-ce qu'à un moment, Tu t'es remis en cause en te disant, bah mince, si je suis dyslexique, je peux pas être orthophoniste, ou au contraire, est-ce que ça t'a motivé à te dire, bah je vais être orthophoniste et dyslexique?
Voilà, eh bien c'est, ouais, c'est une très bonne question. Alors, par ailleurs, moi, je suis croyant, donc je me suis dit, si je suis là, c'est que Dieu m'y a mis. Et j'ai vraiment vécu ça comme une, comment dire, comme un défi, comme si, voilà, comme si on me disait, bah, écoute, voilà, je t'ai choisi pour faire ça et t'es pas le mieux équipé pour le faire, mais je vais t'aider.
D'accord.
Voilà. Et donc, je me suis laissé guider et bon, ben, finalement, j'ai fait toute ma carrière dans ce métier-là, quoi. Voilà. Et je suis toujours orthophoniste aujourd'hui. Voilà.
Ouais, toujours aujourd'hui encore. Et
Oui.
justement, quand tu as commencé à travailler, donc qu'est-ce que tu as eu un petit peu comme type d'exercice? Est-ce que c'était en salariat, en libéral?
Alors, ça, là aussi, c'était assez, assez compliqué parce que moi, j'étais persuadé que j'étais un homme de groupe. J'avais vraiment un idéal de travail en groupe.
Ouais.
Mais je n'avais que l'idéal, en fait. Je n'avais pas du tout les moyens. Voilà. Et donc, j'ai passé pas mal de temps dans les débuts de ma profession, en fait, à me partager entre le libéral et le salariat.
D'accord.
Donc, j'ai mené de front les deux, avec bien sûr un temps plus important en libéral, consacré au libéral, mais comment dire, j'ai travaillé dans des établissements différents, avec des enfants, des cas sociaux, avec ce qu'on appelait à l'époque des arriérés gravataires profonds, des arriérés profonds gravataires,
Oui,
à qui
j'imagine
j'ai.
que la terminologie a changé maintenant.
Elle a changé complètement, voilà, ouais, mais c'est encore ça qui reste dans ma tête, effectivement. Et voilà, et donc moi j'étais là juste pour les aider à ne pas faire de fausses routes quand ils avalaient leur salive. C'était vraiment une question de vie ou de mort pour eux. Voilà. Et puis j'ai travaillé aussi avec des déficients visuels.
D'accord.
Voilà, ça a été très très formateur aussi. Voilà. Et puis finalement, à force. Dans toutes ces expériences en salariat, j'ai toujours été très apprécié par mes collègues, mais moi très mal à l'aise dans la relation. Et
Ah.
donc, voilà. Et donc, j'ai fini par m'avouer que j'étais pas fait pour travailler en groupe, en fait.
Ah ouais.
Et
Qu'est-ce qui te
donc,
plaît dans le
voilà.
travail en groupe?
Dans le groupe, on est plusieurs déjà.
Oui.
Donc, si on est plus que deux, ben, c'est trop. Donc, je suis perdu. Ça fait trop de données pour moi à gérer.
Oui.
Voilà. Donc, en plus, comme je suis, j'entends ce que l'autre me dit d'une façon tout à fait différente de ce que je devrais entendre, hein, je perçois toujours un autre discours que celui qu'on m'envoie. Et voilà. Et donc du coup, c'est toujours compliqué, en fait. C'est toujours très compliqué. Et en fait, ce malaise, j'ai mis longtemps à me l'avouer.
Ouais.
Et puis quand j'ai vraiment accepté les choses comme elles étaient, je me suis dit, bah écoute, finalement, bah, tu vas travailler tout seul.
Ouais.
Voilà, et là, je me suis un peu retiré dans mon cabinet personnel. Voilà, j'ai changé de lieu, etc. Bon, parce que là, en 40 ans, on ne reste pas toujours au même endroit. Et voilà, et j'ai arrêté le travail en commun. Sauf que... Depuis pas très longtemps, on m'a invité en fait à venir travailler dans une clinique de posturologie.
D'accord.
Ça fait 4 ans.
Oui.
Alors j'y travaille une demi-journée par semaine
Oui.
et je me régale. Voilà.
Ah,
Bon, d'abord parce
ok.
que dans l'exercice que enfin là j'y suis uniquement pour la RPP en fait.
Oui.
Et dans cet exercice-là en fait, ben, je suis seul avec mon patient.
Donc, il n'y a
Voilà. Et
plus cette même dynamique de groupe qui pouvait être compliquée pour toi à gérer.
voilà.
Oui, ok.
Ceci dit, j'ai des contacts avec les kinés, les podologues, tous ceux qui sont là autour de moi.
Oui.
C'est un contact très intéressant, très enrichissant,
Oui.
et j'apprends beaucoup de choses. Donc, je profite du groupe quand même, tout en étant à l'abri dans ma
Oui.
pratique. Voilà.
Mais ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que bah, en étant dyslexique sans le savoir, tu te diriges vers l'orthophonie et en finalement appréciant plus les relations duelles. Et bah, tu fais un métier qui te permet vraiment de pouvoir le faire sans forcément travailler en groupe. Donc,
Tout à fait.
Ouais, donc heureusement, ouais, c'est vrai qu'on a un métier qui est tellement riche pour ça, pour la diversité de façon dont on peut l'exercer. Et du coup, toi, tu as pu t'y retrouver alors
Tout
que
à
tu avais
fait.
quelque chose qui ne t'allait pas au départ. Et
Absolument.
justement, comment tu t'es sentie quand vraiment tu as pris la décision d'arrêter complètement les groupes et quand tu as commencé à être camp libéral?
Alors, je me suis senti libéré parce que, en général, la vérité rend libre.
Ouais.
Et quand on la reconnaît et qu'on l'accepte, il y a un poids qui tombe, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, je me suis senti libre. Et en même temps, mon problème personnel était toujours là. Et je me suis rendu compte, à travers notamment la rééducation de la voix, qu'en fait, les consignes verbales que je donnais à mes patients pour les guider dans leurs gestes respiratoires, puisque bon, qui dit voix dit souffle, dit gestion du souffle. Et donc, mes consignes verbales, en fait, elles ne produisaient pas ce que j'attendais. Alors, soit elles étaient mal comprises, soit elles étaient mal exécutées. Enfin, il y avait toujours un problème qui faisait que je finissais par me dire, ben, en fait, tu aurais dû te taire. Et pour un orthophoniste, c'est pas très,
C'est
c'est,
contre-intuitif.
c'est, ouais, c'est pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on attend de l'orthophoniste, hein, qu'il se taise. Et voilà. Et comme de toute façon, j'avais compris que mes consignes verbales étaient inopérantes, eh ben, je me suis dit, t'as plus que tes mains. Et comme de toute façon, ce que je cherchais à conduire, c'était le geste inspiratoire, c'est-à-dire le corps du patient, je me suis dit, en fait, je vais cesser de parler à l'intellect et je vais parler directement au corps, avec mes mains. Et là, j'ai commencé à chercher comment je pouvais modifier le geste respiratoire dégradé du patient manuellement. Et j'ai tâtonné, j'ai cherché, je me suis trompé, j'ai corrigé, etc. Et petit à petit, les outils se sont mis en place et ça a commencé à fonctionner.
Oui.
Et puis à partir de là, j'ai commencé à avoir de plus en plus de demandes de la part des ORL qui m'envoyaient des rééducations de la voix, alors qu'au départ, j'avais pas du tout envie de faire des rééducations de la voix.
Ah, c'est vrai.
Oui, voilà, en plus. Et voilà, je me suis rendu compte en fait que voilà que ça marchait, que très bien, et puis les médecins aussi autour de moi. Et donc cette technique, elle a commencé à Ben, elle s'est affinée, en fait. Et j'ai pratiqué cette forme de travail pendant 25 ans sans rien dire à personne.
Ah ouais, d'accord.
Et voilà. Et persuadé que c'était un peu ma cuisine à moi et que voilà, ça ne pouvait pas intéresser les autres. D'autant que ça n'avait rien d'académique et que je me disais, si j'en parle à mes collègues, ils vont me prendre pour un fou. Voilà. Et puis un jour, quand même, au cours d'une formation que je vais faire à Toulouse, à la fin de la journée, je partage le repas avec celui qui avait organisé la formation, que je connaissais, et un des intervenants que je ne connaissais pas, qui étaient tous les deux orthophonistes, et je mange avec eux. Et là, je ne sais pas ce qui me vient, mais je décide de leur partager mon expérience. Et je suis tout surpris de me rendre compte qu'en fait, ça les intéresse beaucoup. Et donc, ben, du coup, le conférencier demande tout de suite, il me dit, est-ce que tu peux me faire une séance? Je veux essayer. Alors, je lui fais une séance. Et là, il est complètement scotché. Il me dit, mais c'est incroyable ce truc-là, c'est un truc de fou. Voilà. Et puis, donc, tous les deux, ils me disent, écoute, on va venir te voir chez toi, si tu es d'accord, pour que tu nous en dises un peu plus. Parce que vraiment, c'est intéressant. Et puis, quelques jours donc avant la date décidée, il y en a un des deux qui m'appelle et qui me dit, ben, écoute, on n'est plus deux, on est 17.
Waouh!
Voilà. Alors, bon, j'ai dit, OK, d'accord.
Il va
Donc,
falloir un peu pousser les murs.
ouais, voilà, il a fallu un peu réajuster la logistique. Et puis, les voilà qui débarquent, donc les 17. Et puis, voilà, donc je commence à leur expliquer. Et puis, je me rends compte, encore une fois, que j'aurais mieux fait de me taire. Parce que ce que je leur dis, ça ne leur convient absolument pas. Et je me fais jeter, engueuler et tout. Je dis, oh là là, c'est bon, c'est bon. j'arrête, je ne dis plus rien, on va passer à la pratique. Donc, je vais vous faire une séance devant vous. Vous allez regarder. J'avais préparé des tables pour ça. Et je dis, et après, vous allez vous mettre deux par deux et vous allez essayer de faire ce que vous avez vu. Et quand vous aurez fini, vous changerez. Donc, celui qui a fait pas sur la table et en inverse. Et voilà, et donc tout se déroule parfaitement. Et à la fin de l'après-midi, ben, il y en avait qui pleuraient, d'autres qui ne pouvaient plus s'arrêter de rire. Enfin bon, c'était la cour des miracles. Et donc, à la réunion du soir, tout le monde était d'accord pour dire... Enfin, ils avaient oublié que mon discours n'était pas du tout satisfaisant. Mais la pratique qu'ils avaient essayée, ben, ça, par contre, ça leur parlait tout, complètement. Et là, le soir, ils m'ont dit, ben, écoute, il faut que tu montes une formation, il faut que tu écrives un livre. Je dis, oula, moi, ça, je ne sais pas le faire. Et ils m'ont dit, ben, c'est pas grave, on va t'aider. Bon, alors, j'ai dit, si vous m'aidez, d'accord. Voilà. Et alors, ça, c'était en 2009.
Ouais.
Voilà. Et en fait, eh bien, on a monté une formation, j'ai écrit un livre, voilà. Et puis, depuis 2009, chaque année, à part une année ou deux à cause du Covid, par exemple, on a toujours continué à former des personnes. Alors, au début, c'était essentiellement des orthos qui venaient. Et puis après, il y a des kinés que ça a intéressé qui sont venus aussi. Puis après, il y a eu des psychologues. Puis après, il y a eu des profs de chant. Et puis après, il y a eu des médecins. Et puis après, il y a eu des ostéopathes. Enfin, bref, voilà, ça s'étend. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, au départ, mon intention, elle était destinée au trouble de la voix. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'en fait, progressivement, au cours de ma pratique, mes patients me rapportaient des effets que je n'avais pas du tout escomptés.
Comme quoi ?
Et comme par exemple le fait, ben, certains me disaient, ben, j'étais angoissé, je ne suis plus. J'avais des troubles du transit, j'en ai plus. Voilà. Mais aussi, je bégayais, je ne bégaye plus. Alors là, j'ai commencé à exporter donc, mon outil dans la rééducation du bégaiement. Et puis, en fait, petit à petit, dans ma pratique d'orthophoniste, j'ai exporté cet outil-là dans tous les domaines, dans toutes les prises en charge. Et aujourd'hui, je suis toujours orthophoniste. Je ne fais que de la RPP. Et en fait, je continue d'être orthophoniste. Donc, je suis des malades du Parkinson. Je suis des bègues. Je rééduque des voix. Bon, aujourd'hui, c'est l'essentiel de voix parce que j'ai été obligé de faire des choix. Il ne faut pas voir tout le monde. Mais j'ai fait aussi, avant, dans les années qui ont précédé, j'ai suivi des 10 avec qui je faisais que de la RPP et qui progressaient. Même des dysgraphies. Hein, moi, je me souviens d'un petit garçon dysgraphique que sa maman m'amène. Et puis, je le mets sur la table et je commence à travailler. Alors, elle me regarde avec des yeux comme ça, puis elle me dit, mais vous ne le faites pas écrire? Ben, je dis, ben non. Et bon, alors, elle avait l'air un peu étonnée. Et puis, bon, elle me fait confiance. Et au bout de quelques séances, elle revient, elle me dit, écoutez, c'est fini, les problèmes de dysgraphie ont disparu. Bon, en fait, il y avait simplement derrière des problèmes de tension musculaire, de tension aussi émotionnelle, bien sûr. Et la RPP ayant dénoué ces tensions, eh bien, les troubles du tonus avaient disparu et bien sûr, l'écriture s'était améliorée. Donc, on retrouve un peu ça dans tous les cas de figure. Et voilà comment, en fin de compte, au bout de plusieurs années, je me suis retrouvé à être toujours orthophoniste et à travailler pas du tout comme un orthophoniste. Ceci dit, tout ce que j'ai appris à l'école d'orthophonie me sert, évidemment. Et je regarde toujours mes patients à travers ce que j'ai appris et ce que j'ai compris.
Expérimenté aussi.
Voilà, ouais. Tout à fait.
Okay.
Voilà.
Et par exemple, pour des 10 ou dans le bégaiement, enfin des choses qui normalement s'expliquent au niveau neurologique. Donc du coup, toi, comment t'expliques justement l'impact de la RPP pour ces rééducations ? Parce que c'est vrai que pour la voix, j'arrive un peu plus à faire le lien, mais pour ces pathologies, j'ai plus de mal à voir.
Ben, je pense que dans tous les cas, dans toutes les formes de pathologie, en fait, il y a un impact très important du mode respiratoire. Beaucoup plus qu'on ne le croit. En fait, quand je suis confiant, je respire confiant, c'est-à-dire que mon diaphragme descend comme il devrait descendre, et que donc, déjà dans un premier temps, mon oxygénation est optimale. On peut très bien comprendre qu'un diaphragme qui est destiné à descendre 20 000 fois par jour vers les viscères, s'il est retenu dans sa descente, s'il est rétracté, automatiquement, il va y avoir un impact tous azimuts, tous azimuts, que ce soit au niveau neuronal, au niveau de la mémoire, au niveau cognitif, au niveau, bien sûr, physique, au niveau émotionnel. Toutes les composantes, en fait, de l'être sont quelque part reliées à cette source qui est la source respiratoire. Et je pense que ce que j'ai découvert au fil du temps, c'est que c'est l'importance de cet impact-là. Et voilà. Et c'est les retours des patients qui m'ont fait prendre conscience, parce qu'en fait, je ne voyais pas au départ pourquoi est-ce que ce que je faisais manuellement, ça pouvait avoir un impact dans des domaines aussi divers et aussi variés. Et voilà. Alors avec le temps, bien sûr, et l'observation, les choses s'éclairent et je comprends de plus en plus. Et d'ailleurs, je vois aussi de plus en plus de domaines d'application, puisque maintenant, j'arrive même à déborder l'orthophonie. Quand je suis à la clinique de posturologie, je travaille avec des dépressifs, avec des gens qui ont des tendinites chroniques, avec des gens qui ont des toux chroniques ou des tas de domaines dans lesquels je ne suis pas à la base spécialisé. Et voilà. Et ce qui explique aussi que ça intéresse les kinés, les psychos, les...
Oui, que d'autres corps de métier t'intéressent. Ouais.
Voilà, des profs de chant, etc.
Ouais. Et quand tu les vois, ces patients, est-ce que c'est un petit peu comme les ostéos, une séance, ou alors est-ce que ça se rapproche plutôt du suivi orthophonique avec des séances plus régulières?
Alors, ça dépend un peu de la pathologie du patient.
Oui.
Par exemple, si j'ai un malade de Parkinson, j'ai envie de dire que je vais le suivre pendant toute sa vie, puisque... sa maladie lui court après, et que donc mon rôle, moi, c'est de freiner, en fin de compte, l'évolution de la maladie, ce qui se passe effectivement, hein, puisque moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent « depuis que je viens vous voir, ma maladie n'évolue plus ». D'autres qui me disent « on n'a pas changé les dosages du traitement ». Donc, il y a tout un tas de facteurs comme ça qui font que, suivant, en fin de compte, la prise en charge, ouais, ça peut arriver que le problème se règle en une séance ou en deux ou trois séances. Et pour d'autres, ça peut être plus long. Et j'ai aussi des gens qui viennent pendant un certain temps, puis qui laissent tomber, et puis qui reviennent me voir plus tard parce que le passé les rattrape un peu, leurs habitudes aussi, et que donc il y a besoin de détricoter ce qui a été retricoté. Et un peu comme chez un ostéo, en fait. Hein.
Voilà. Ok. Voilà. Et là, je reviens sur quand tu as expliqué que tu as présenté cette technique à 17 personnes au lieu de 2. Oui. Justement, tu disais qu'au départ, ils ne comprenaient pas trop où tu voulais en venir. Et tu as dit, attendez, je vais vous montrer. Comment toi, tu t'es senti à ce moment-là? Parce que c'était les premières fois que tu parlais de ce que tu faisais depuis 25 ans. Et ouais. Au début, ils avaient l'air intéressés. Et puis après, un petit peu réticents, comment tu t'es senti? Comment tu as fait pour rebondir, pour dire « non, mais attendez
». Ouais, et bien en fait, ça m'a renvoyé tout de suite à la situation dans laquelle je m'étais trouvé face à mes patients dysphoniques.
Ouais.
Et je me suis dit, ce que tu dis, c'est pas clair. Ou bien c'est pas clair, ou bien c'est pas facile à comprendre.
Ouais.
Alors, qui est le responsable, c'est toujours difficile de savoir. Mais en tout cas, le résultat, c'est que l'information ne passe pas. Mmh. Voilà. Et alors, moi, c'est vrai que j'ai certaines tendances à utiliser un langage plutôt symbolique. Hein. Par exemple, quand je parle d'oxygène et de CO2, donc d'inspire et d'expire, je vais parler de vie et de mort. Bien sûr, parce que l'oxygène, c'est un peu le gaz qui nous apporte la vie. Et le CO2, si on le rejette, c'est qu'il vaut mieux ne pas le garder. Voilà, c'est un peu simpliste, mais en même temps, c'est aussi très symbolique. C'est porteur d'une vérité quelque part. Et en même temps, ça permet aussi à celui à qui je parle de comprendre ce que je suis en train de faire. Et notamment pendant mes séances RPP, j'utilise toujours un discours symbolique qui permet d'apaiser en fait l'intellectuel qui est devant moi et qui veut comprendre. Il y en a qui n'ont pas besoin de comprendre et d'autres qui cherchent à comprendre.
Oui.
Et ceux-là, ils ont besoin d'être apaisés. Hein, il faut que ça soit désamorcé et qu'ils se disent « Ah ben oui, bien sûr, ben, je comprends.
Oui. »
Voilà, alors, et à ce moment-là, donc, ça va mieux, on arrive à pouvoir travailler un peu plus efficacement, quoi.
Et ça t'arrive parfois avec certains patients de devoir passer par ça, justement, des patients qui au début ne comprennent pas trop pourquoi ce n'est pas du travail d'orthophonie classique et où tu dois justement expliquer?
Alors, bizarrement, c'est très rare qu'un patient soit surpris par ce que je lui propose.
D'accord.
Alors, le premier surpris de ça, c'est moi. parce que je me dis, mais soit il ne sait pas ce que c'est qu'un orthophoniste, et à ce moment-là, il est prêt à tout. Soit il sait ce que c'est et il va me poser des questions. Et en fait, c'est très rare que les gens posent des questions. Alors, bien sûr, moi, avant de commencer ma séance, j'explique ce que je fais. J'annonce un peu la couleur. Je dis aux gens que je ne suis pas un orthophoniste classique, voilà, que j'utilise mes mains, que donc j'ai une technique manuelle. Et puis, en quelques mots, j'essaye quand même de présenter la RPP, d'expliquer en quoi, en fait, ça peut les aider. Voilà. Donc, en général, ce que je leur propose, ça les rassure et ça leur suffit. Oui. Et puis, très rapidement, une fois qu'on a fait une séance, ils comprennent. Parce que c'est passé dans le corps. Et quand le corps a compris, la tête, elle ne pose plus de questions. En fait. Souvent, la tête pose des questions quand le corps n'a pas compris.
Et justement, je me demandais, parce que, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être que toi, tu es dans cet univers de la thérapie manuelle depuis plus longtemps, mais tu vois, rien que moi, pendant les études, je commençais à en entendre parler. Là, je trouve qu'on en entend beaucoup plus parler, mais je me dis, toi, du coup, quand tu as commencé, est-ce que tu avais déjà entendu des parcours d'orthophonistes qui étaient en contact physique avec les patients?
Alors, absolument pas.
Ouais.
Absolument pas. Après, je suis pas non plus quelqu'un qui est couru après les informations.
Oui.
De par ma nature un peu solitaire et un peu atypique, on va dire. Mais non, effectivement, j'ai pas été influencé du tout par quiconque dans ce domaine-là. En fait. C'est juste la nécessité qui m'a poussé dans cette direction.
Ouais, mais justement, tu vois, je trouve ça fou parce que si c'est quelque chose que tu avais jamais entendu, enfin jamais vu, expérimenté, de se dire bon bah je suis orthophoniste, le gros de mon travail c'est de travailler au bureau avec mes patients, et bah là non, je vais faire complètement autre chose.
Ouais, tout à fait. alors, bien sûr, quand j'ai commencé, d'abord j'avais absolument pas idée que ça allait devenir ce que c'est devenu.
Ouais. Hein.
Moi, j'étais vraiment, je bidouillais un peu, j'étais dans ma cuisine, comme je dis, et j'essayais de trouver une petite recette pour faire avancer le schmilblick. Et donc, je n'ai pas du tout imaginé ce que ça allait devenir, en fait. Et donc, du coup, je n'ai pas été effrayé, ni je me suis posé de questions. Voilà. Mais petit à petit, en fait, c'est le retour des patients qui m'a fait avancer. C'est toujours eux qui m'ont fait avancer. Et la première fois que je me souviens très bien, la première fois que j'ai mis mes mains sur une patiente, c'était une dame un peu âgée. J'avais une espèce de table là, rigide. J'avais mis dessus. Et puis j'ai commencé à lui faire ce que je sentais. Et à la fin de ma séance, entre guillemets, elle m'a regardé avec un air incroyable et elle m'a dit « Mais ce que vous m'avez fait là, ça m'a fait un bien incroyable. » Et là, il y a eu comme une petite lumière qui s'est allumée en moi et je me suis dit, ouh, il se passe quelque chose là, il faut que je continue. Voilà. Et vraiment, ce sont les patients qui m'ont toujours encouragé, en fait. Et à force d'encouragement, et parce que moi, je suis pas quelqu'un de très courageux, je veux dire, je suis plutôt craintif. D'accord, j'ai tort. Je me retire, excusez-moi. Voilà. Donc, c'était plutôt comme ça que je fonctionnais, que je fonctionne toujours un peu, peut-être. Et donc, si j'ai avancé, en fait, c'est simplement parce que vraiment, j'ai été encouragé.
Oui.
Et j'ai été encouragé par les patients. Et ça, c'est fondamental, je crois. Parce que c'est quand même eux qui sont sur le billard, qui sont sur la table. Et voilà. Et donc, ça, je le leur dois, en fait. Voilà.
Ok. Et est-ce que tu veux bien nous présenter un petit peu ce que c'est la relaxation pneumophonique, nous expliquer s'il y a des étapes pour qu'on situe un petit peu mieux?
Oui, alors tu veux parler d'une séance, par exemple?
Oui, par
D'une séance,
exemple, ouais.
oui. Alors, écoute, une séance de RPP, ben, ça commence par, alors d'abord, ça commence par une anamnèse, bien sûr, hein, il faut discuter avec le patient et savoir pourquoi il vient, qu'est-ce qui l'amène, de quoi il souffre, quels sont ses problèmes. Voilà, comme une anamnèse classique. Voilà. Et puis à partir de là, ben, après, il faut que je présente un petit peu aussi comment je travaille, donc je le fais. Ensuite, j'amène mon patient sur la table, je l'invite à s'allonger, je le préviens que je vais le toucher, je lui demande s'il est d'accord, parce que tout le monde n'a pas forcément envie qu'on le touche, et je lui explique que je vais utiliser des vibrations, des bercements, ce sont les deux principaux outils de la RPP, des vibrations manuelles et des bercements. Voilà, que je vais à certains moments aussi peut-être utiliser sa propre voix au patient, que je vais mettre sous vibration manuelle. Voilà, et que à l'occasion, si le besoin s'en fait sentir, je vais aussi lui tenir un petit discours symbolique pour lui permettre de comprendre ce qu'il est en train de vivre, ce que son corps est en train de vivre et ce qui se passe dans son corps. Grosso modo, pour résumer les choses, l'RPP, c'est le but de l'RPP, en fait, c'est d'instaurer un lâcher-prise. À chaque fois qu'il y a un problème, en fin de compte, alors moi j'utilise souvent cette image, hein, la vie est un long fleuve tranquille, c'est un titre de film qu'on connaît bien, et malheureusement l'existence met en travers du fleuve parfois des barrages. Ces barrages, ce sont les expériences traumatiques, émotionnelles, fortes ou pas fortes, et chaque émotion en fait a un impact sur le diaphragme. Même un compliment. Ça va jouer l'amplitude de mon geste diaphragmatique. Et donc, pendant la séance, en fait, ce que je vais chercher, c'est à restaurer la libération du diaphragme pour qu'à nouveau, il puisse descendre vers les viscères, ce qui est très important parce que si le diaphragme descend complètement, c'est la seule condition pour que l'oxygène passe de façon optimale dans le sang. Parce que l'oxygène passe dans le sang. Au niveau de l'arbre bronchique, c'est-à-dire au fond du poumon. Et pour ça, il faut que le poumon soit complètement déployé, finalement. Et c'est à ce niveau-là que l'oxygène passe dans le sang de façon optimale. L'espace qui est au niveau thoracique est en haut, en fait, les pneumologues l'appellent l'espace mort. C'est pas pour rien, parce qu'en fait, il se passe rien dans cet espace-là. La vie se propage en nous, mais par le fond du poumon. Et si mon diaphragme est rétracté, parce qu'il a l'habitude de rester rétracté, eh bien, ce passage de l'oxygène dans le sang est détérioré, en fait, est affaibli. Voilà, donc ce que je cherche, c'est ce que nous, on appelle en RPP, on appelle ça des capitulations. Ce sont des lâcher-prises qui se manifestent soit par des soupirs, des bâillements, simplement le fait de fermer les yeux. Un patient qui est sur le qui-vive, il garde les yeux ouverts. Et quand il commence à fermer les yeux, ça veut dire qu'il commence à lâcher. Voilà. Après, il y a des tas de choses qu'on reconnaît dans les mains, dans les poignets, dans les jambes, dans les hanches, dans les épaules, dans la nuque. Et partout, en fait, il y a des manifestations de tension qui sont autant de manifestations comment dire, de crainte, d'autoprotection, de mise en autoprotection. Et ce sont ces mécanismes d'autoprotection que petit à petit, en tournant, en passant par des entrées différentes, la tête, les pieds, l'abdomen, le thorax, les bras, on va dénouer et on va désamorcer toutes ces tensions. Et au fur et à mesure que les tensions se désamorcent, on multiplie ces lâcher-prises. Et la séance, elle n'a pour but que de multiplier les lâcher-prises. Et ensuite, la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que même si le patient a lâché prise en séance, quand il va revenir dans sa vie de tous les jours, il va à nouveau récupérer les tensions dans lesquelles il vit habituellement. Donc, il faut qu'à la séance suivante, on puisse recommencer et éventuellement recommencer encore pour pérenniser ce lâcher-prise. À un moment donné, en fait, il y a une bascule qui s'opère et qui fait que le corps, en fait, a compris son intérêt à lâcher-prise. Et que le mode respiratoire méfiant qui s'était installé par défaut est désamorcé et le mode respiratoire confiant reprend ses droits. Et à ce moment-là, c'est gagné. Et là, à ce moment-là, le bègue ne bégaye plus. Le dyslexique a beaucoup moins de difficultés. Je sais pas, le Parkinson devient heureux alors qu'il était tracassé par sa maladie. Voilà, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit que finalement, les problèmes que le patient présentait, finalement, ou ils disparaissent complètement, ou ils sont bien atténués, parce que justement, la posture du patient n'est plus la même. Il vit les choses autrement. Il n'est plus dans la condamnation de sa maladie, sous le couperet du diagnostic. Il a enfin ouvert une fenêtre qui lui permet de respirer un air nouveau. Et dans cette respiration, en fait, il retrouve la vie. Et ce retour à la vie, c'est ce qu'on cherche en RPP, en fait. C'est ce retour à la vie qu'on souhaite et qu'on travaille à instaurer à travers une séance RPP. Donc, la séance se déroule, on tourne, on cherche les entrées et on travaille de capitulation en capitulation jusqu'à la fin de la séance qui dure 30 minutes.
Voilà. D'accord. Et ces 30 minutes de, j'allais dire manipulation, c'est peut-être pas le terme exact, mais 30 minutes de thérapie manuelle en tout cas.
Voilà, de thérapie manuelle, tout à fait.
D'accord,
voilà.
Ok. Ouais. Et à la fin de la séance, est-ce qu'il y a ensuite un temps de débrief, quelque chose où...
Oui, alors bien sûr, il faut le prévoir. Il faut déjà un temps pour se relever parce qu'il y a des patients qui s'endorment mais qui ne se réveillent plus. Donc, il faut pouvoir les réveiller quand c'est le cas. Et ensuite, il faut pouvoir en parler. Et éventuellement, s'ils en ont envie, parce que des fois, ils ont basculé dans un autre monde quelque part. Et certains n'ont pas envie de parler, ils veulent partir comme ça, voilà, donc c'est à respecter. D'autres, par contre, ont peut-être envie aussi de parler, voilà. Donc, effectivement, il faut prévoir un temps pour ça, ensuite, et voilà, jusqu'à la suivante.
Ok, d'accord. Bon, comme ça, ouais, on y voit un petit peu plus clair dans la RPP. Ouais. Merci de m'avoir présenté tout ça. En tout cas, c'est super intéressant et ça m'a vraiment parlé le moment où tu parlais justement des capitulations, donc les moments où les gens arrivent à lâcher un petit peu. Je sais que moi, je travaille en thérapie manuelle. La formation que j'avais faite, c'était Ostéovox et puis on avait commencé à l'aborder aussi en cours. Donc, je pense qu'il y a différentes inspirations dans ce qu'on avait vu. Et c'est vrai que parfois, j'ai des gens sur la table « Oh, arrête comme des piquets
!» Ouais.
Et tu vois... Malgré les séances, des fois, je vois que pour certains, c'est compliqué. Donc, souvent, pour eux, tu vois, je mets un petit peu de côté la thérapie manuelle. Donc, ça pourrait être intéressant. Et c'est vrai que, tu vois, je pense que je suis à la fois dans les personnes qui voient ce que tu veux dire et à la fois encore dans les personnes à convaincre, tu vois, notamment sur le bégaiement. J'avoue que, tu vois, j'ai du mal à voir comment c'est possible et j'ai même un peu la crainte que, par exemple, les personnes bègues se disent que c'est une solution miracle et que le bégaiement disparaît si on fait de la RPP et que ça marcherait pour tous les bègues.
Oui, bien sûr. Alors, bien sûr que on peut, comment dire, c'est pas à 100% efficace, suivant les cas, déjà, hein. Bon, on sait très bien qu'un bègue qui bégaye depuis 30 ans, c'est plus compliqué qu'un bègue qui bégaye depuis 6 mois. voilà, donc il y a toujours une notion d'ancienneté dans le trouble, dans l'installation du trouble, qui se répercute sur le temps qu'on va mettre aussi à le désinstaller. Et voilà, mais globalement, j'ai fait de la rééducation du bégaiement avant de faire de la RPP. Donc, des démarches classiques, on va dire. Et depuis que je fais de la RPP, ben, globalement, je peux dire que les résultats sont meilleurs et plus rapides. Voilà. Et que, en fait, tout simplement parce que tout à l'heure, j'ai parlé du long fleuve tranquille qui s'écoule. Et en fait, le bégaiement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un barrage qui vient se mettre au travers du fleuve. En amont du barrage, alors ce barrage, symboliquement, c'est notre diaphragme. En amont du barrage, il y a une submersion qui se produit parce que l'eau ne peut plus s'écouler, donc ça monte, ça monte, ça monte. Donc tout ce qui se trouve en amont du barrage, toutes les berges vont mourir, submergées. Et en aval du barrage, tout va mourir, desséché. Et c'est vraiment ça qui se passe dans le corps. Et nous, en RPP, on veut réouvrir en fait le barrage. La capitulation, c'est la manière de réouvrir le barrage. Et quand on réouvre le barrage, on n'a pas besoin d'apprendre comment on va naviguer sur la partie basse où il n'y a plus d'eau, puisque l'eau revient. D'accord ? Voilà. Ça, c'est vraiment une image. Si l'eau se remet à couler, on a fait exploser le barrage, eh bien, la rivière coule et donc l'affluence s'est rétablie. Le mot fluence, c'est vraiment un mot qui parle. Ça parle vraiment du fleuve et ça parle de l'écoulement du fleuve. Et le beg, en fait, c'est vraiment une personne qui a, dont l'affluence, dont le fleuve a été endigué par un barrage, en fait, et qui se retrouve dans l'incapacité de laisser couler, en fait. Et à partir du moment où on lève ce barrage, il fait l'expérience du retour du flux, de l'affluence, spontanée, sans avoir eu besoin de faire quelque travail ni quelque effort que ce soit, parce qu'en fait, un effort et un travail, c'est encore une intervention sur soi-même. Donc, c'est une autre manière de mettre un barrage. Dès que je fais un effort, je suis dans une démarche volontaire. Et quand je suis dans une démarche volontaire, je ne suis pas complètement détendu. Ce n'est pas possible. C'est très difficile, en tout cas. Voilà. Et ça, l'intérêt de la RPP là-dedans, c'est, dans cette démarche-là, c'est aussi ça, c'est de pouvoir dédouaner le patient de sa propre implication à régler son problème. En fait, quand le patient vient, je lui dis, et qu'il me demande qu'est-ce que je dois faire, je lui dis rien. Et là, souvent, j'entends les gens qui me disent, enfin, je vais pouvoir faire quelque chose sans rien faire. Je dis, oui, voilà, c'est moi qui fais, vous ne faites rien. Moi, je désamorce, je casse le barrage. Voilà. Je casse le barrage et je laisse l'eau s'écouler. Voilà. Et c'est l'eau, en fait, c'est l'écoulement de l'eau qui règle tout. C'est le fait que l'eau, à nouveau, coule. Et du coup, cette submersion qu'on retrouve en amont du barrage, c'est la submersion émotionnelle dans laquelle se trouve le bébé et dont il n'arrive pas à se défaire. Et la seule solution, en fait, c'est de briser le barrage. Voilà, c'est une explication.
Voilà, merci pour ton explication supplémentaire. Je me renseignerai aussi de mon côté sur la RPP. Et justement, s'il y en a qui souhaitent se former, où est-ce que tu peux les rediriger ?
Alors, le meilleur moyen, le moyen basique, c'est d'aller sur le site. Oui. Alors, le site, c'est relaxation-du6.fr. Voilà, c'est tout. Et sur le site, il y a une rubrique formation avec toutes les consignes et les conseils. Et puis, en même temps, bon, comme c'est un site, c'est un peu la vitrine de la RPP. Oui. Ça permet de savoir un peu de quoi il retourne.
Ok, voilà, donc je mettrai tout ça dans la description du podcast, comme ça les gens pourront cliquer directement dessus. Et voilà, ça peut être intéressant pour avoir un outil supplémentaire dans notre mallette d'orthophoniste. Voilà.
Il y a aussi un compte Instagram aussi.
Ok, d'accord, aussi. Voilà. Tu me donneras le lien et pareil, je le mettrai alors dans la description pour que les gens puissent y aller. On arrive à la dernière question du podcast, Robert. Toi qui as la parole aujourd'hui. Quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices ?
Alors, qu'est-ce que j'ai envie de leur faire passer ? J'ai envie de leur dire que la vie est belle, qu'on n'a jamais, on n'a aucune raison de croire qu'elle ne l'est pas, même si on passe par des difficultés, et qu'en fait, en toutes circonstances, mais vraiment en toutes circonstances, si on retrouve son souffle confiant, sa respiration confiante, les difficultés s'effacent, en fait. Les problèmes disparaissent. Et c'est vraiment la confiance qui est au cœur de la RPP. Et ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que à tous ces personnels qui sont des personnels médicaux, qui sont dans le soin, dans la santé, dans l'accompagnement, tous les coachs, les professeurs de chant, les accompagnateurs en tout genre, je les invite à venir faire cette formation, tout simplement, parce que c'est une formation simple, qui est courte, qui est spectaculaire, qui est puissante et qui change les vies. Tous les gens qui ont fait la formation RPP disent, à un moment ou à un autre, ça a changé. Alors, les uns disent, ça a changé ma vie professionnelle, d'autres disent, ça a changé ma vie complètement. Et voilà. Et donc, c'est vraiment une formation hors du commun, j'allais dire. Le premier surpris, c'est moi. et à chaque fois là, quand je sors là ce week-end on a débuté une formation et à chaque fois que je sors je me rends compte qu'on est tous on a basculé dans quelque chose de nouveau et ce nouveau est toujours nouveau, voilà, et on s'en lasse pas et ça fait des années et c'est merveilleux quoi. Voilà.
Super. Eh ben, merci pour ce message et merci pour cette présentation de la RPP qui peut être un outil supplémentaire dans nos mallettes d'ortho. Un
merci
grand
beaucoup.
Merci pour ta présentation, Robert, et à bientôt.
À bientôt, Sarah. Merci à toi.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à La Parole aux Orthophonistes.